pour moi, l'émerveillement, que ce soit au travers de l'observation astronomique, de la photographie animalière ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de très important.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Régis Moscardini, photographe animalier du blog auxsoinature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast Interview de photographe nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Pour ce 62e épisode, je suis très heureux d'accueillir l'astrophotographe Corentin du site Nébuleuse et Cacao. Alors il suffit de regarder quelques secondes une des vidéos de Corentin sur sa chaîne YouTube pour comprendre qu'il ne fait pas comme les autres. Il suffit de lire les premières lignes de sa bio sur son compte Instagram pour voir que son approche est différente. Et évidemment, il suffit de voir ses photos pour se rendre compte que son travail est à part. La performance, la recherche de résultats et les records ne sont pas du tout son truc, c'est pas pour lui. Ce qu'il veut, Corentin, c'est donner envie à ceux qui verront son travail, que ce soit des photos ou des vidéos, de se bouger à leur tour et de vivre aussi à leur tour l'émerveillement. C'est sa façon à lui, en fait, très poétique et tout en suggestion, de dire au monde « Ouvrez vos yeux, levez la tête, regardez vraiment le spectacle offert toutes les nuits par le ciel étoilé. » C'est exactement ce qu'on a essayé de faire avec Corentin tout au long de l'épisode. Et si une personne parmi vous décide de sortir ses vieilles jumelles pour regarder la lune ce soir ou n'importe quoi d'autre dans le ciel, alors on aura gagné. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute en compagnie de Corentin. Bonjour Corentin.
Salut Régis.
Écoute, je suis très heureux de faire cette interview avec toi. Déjà parce que je vais apprendre à te connaître et que comme je te suis depuis un certain temps sur Instagram, ben, c'est toujours sympa de pouvoir se parler de vive voix. Et puis, il y a le fait que on va beaucoup parler, et même on va parler que de ça, de photographie astronomique ou d'astrophoto. Je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre, peu importe, peut-être que tu nous diras, hein, Corentin. Et c'est un domaine que j'aime particulièrement, qui me passionne. Alors, j'essaye de le faire aussi, donc l'été, quand les beaux jours viennent, ben, tu nous diras si l'été, c'est vraiment la meilleure ou si c'est la seule période pendant laquelle on peut faire de la photo astro. Donc voilà, plein de questions me viennent en tête. Donc j'essaye d'en faire avec plus ou moins de succès me concernant, mais en tout cas c'est passionnant. Alors j'ai découvert en fait ton travail, d'abord je crois par ta chaîne YouTube qui s'appelle Nébuleuse et Cacao. D'ailleurs j'invite tout de suite nos auditeurs à aller, s'ils le peuvent là tout de suite, à aller sur YouTube, taper Nébuleuse et Cacao et de voir le film que tu as fait, enfin un des films et celui dont je parle, c'est L'endroit exact de la solitude. C'est original, c'est beau, c'est reposant, c'est instructif, c'est franchement le genre de film qu'on aimerait voir plus souvent sur YouTube. Donc c'est vraiment une petite pépite. Donc ma première question est vraiment toute simple. Pourquoi ce nom de Nébuleuse et Cacao? Nébuleuse, j'ai à peu près compris, mais j'avoue que le cacao, ça m'interpelle.
Alors déjà Régis, merci de ton invitation. Merci pour tous les retours que tu viens de me faire et puis l'invitation que tu as fait aussi à tes auditeurs pour venir rejoindre ma chaîne et regarder ce que je fais. C'est vraiment sympa de ta part parce que moi aussi je suis ton travail depuis très longtemps. Je sais plus quand je suis arrivé sur auxsoinature, mais je suis abonné à la newsletter et je reçois des mails. Et à chaque fois que je les reçois, je me dis, mais ce mec est productif et fait ça avec une qualité. Et à chaque fois que je lis ça, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être à ce point productif et tout, et je te félicite pour ça. Nébuleuse sympa, et cacao, alors. Nébuleuse ouais, et cacao, alors. D'où ça vient? En vrai, je vais te dire la vérité, ça vient d'une photo que j'ai faite il y a 4 ans, je crois. C'est simplement la photo d'une tasse de chocolat chaud prise du dessus, d'accord? C'est un top shot comme ça. Okay. Chocolat chaud que j'ai touillé, ok? Et donc la mousse de lait formait une sorte de nébuleuse et j'ai appelé ça la nébuleuse du cacao. À l'époque, c'est comme ça que j'appelais ma photo. Et il y a ce projet, au fur et à mesure des années, de mon évolution dans le milieu de l'image et le fait que je grandisse aussi me donne envie d'accomplir des choses dans la vie. Il y a cette histoire de nébuleuse du cacao qui est revenue parce que j'aimais bien le rapport à l'immensité, à l'immensément grand par la nébuleuse et le rapport à la naïveté aussi par rapport au lait. La naïveté, l'enfance, toujours avoir ce regard en fait d'enfant sur les choses, ce regard naïf et curieux en gros. si je devais le résumer, ça serait comme ça que je le ferais.
C'est intéressant. Alors, comme tu as parlé du cacao, l'histoire de la tasse, ça, ouais, je comprends parfaitement d'où ça vient. Et du coup, je m'étais mis en tête, je m'étais dit à l'instant là, tiens, c'est peut-être parce qu'en fait, tu sais, on parle de la Voie lactée, ça sonne presque mieux en anglais parce qu'on pense à Milky Way, tu vois, même oui. On pense à la petite barre chocolatée. Finalement, il y a peut-être un petit peu de ça également. Hein. Ça se recoupe, hein, tout ça, en fait. Hein.
Oui, c'est sûr. Il y a le côté un peu laiteux, tu sais, de la Voie lactée, laiteux des nébuleuses. En vrai, je l'ai pris parce qu'il me plaît, et j'aime bien aussi laisser un peu le doute et me dire, bon, tout le monde va trouver une signification à ce pseudo, moi j'apporte la mienne, et puis ceux qui veulent y trouver un sens, ils trouvent ce qu'ils veulent, et ça, je trouve ça formidable.
Alors Corentin, on va apprendre à mieux te connaître, avant d'aborder en profondeur la photo astro. On dit quoi ? Astrophoto, photo astro, est-ce qu'il faut s'embêter avec ça ?
Alors, au terme général, c'est astrophotographie. Moi, ouais. J'aime bien dire que c'est de la photo de nuit, tout simplement, parce qu'on prend des étoiles, mais voilà, c'est histoire juste de partager la photo d'un moment, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a plusieurs choses dans l'astrophotographie. Il y a la photo grand champ, qui est celle que tu vas faire de la Voie lactée avec un moulin, par exemple. Tu vois, ça, c'est pas très compliqué à faire. Je pense que tu en as déjà fait, j'en ai vu sur ton compte. Bon, il n'y avait pas des moulins, mais il y avait... Puis il y a des photos un peu plus compliquées à réaliser, donc des photos de nébuleuses ou des objets qui sont très très loin. Et ça, on en parlera plus tard, c'est un peu technique pour y arriver, mais c'est pas si compliqué que ça en fait.
Ma première question en fait, c'est lié à ta bio que tu mets sur Instagram. D'ailleurs, c'est aussi, ton compte, c'est aussi Nébuleuse et Cacao, donc si on veut te retrouver sur Instagram, c'est facile, on tape dans le champ de recherche Nébuleuse et Cacao, on te retrouve tout de suite. Et tu marques, et j'aime beaucoup également, et je pense que ça colle assez bien à ton personnage, passe son temps à se faire des films et à écouter l'univers. Alors, au début, je l'ai lu rapidement et j'ai compris, en fait, j'avais lu vite fait, passe son temps à faire des films. Et je l'ai relu et je l'ai écrit donc pour les questions. Et en fait, non, je me suis rendu compte que c'était passe son temps à se faire des films. Alors, est-ce que c'est vraiment à se faire des films ou finalement, est-ce que tu as fait une erreur quelque part et que tu voulais plutôt dire ou écrire passe son temps à faire des films ? Est-ce que tu peux me éclairer ma lanterne par rapport à ça ?
Je suis content que tu relèves la question et que tu sois même revenu sur ton erreur parce que pour moi, c'est très important, cette histoire de se faire des films, tu vois. Parce que faire des films, comment expliquer ça, en fait ? Dans se faire des films, je vois le côté rêveur, tu vois. Ça me permet d'exprimer tout ce côté-là aussi. Que je passe ma vie à rêver, à me faire des histoires dans ma tête. Et ça me permet en même temps de dire que ben, je réalise des films qui parlent de ça, justement. Tu vois, c'est cette manière d'apporter par le SE...
C'est juste un mot qui change complètement. Ouais, ça change tout.
Ouais. Ouais, ouais. Et c'est un truc que j'aime beaucoup faire dans les légendes que je fais ou dans mes films, c'est jouer sur les mots comme ça pour déclencher des choses ou pour changer le sens des choses.
Ça fonctionne parce que... Le nom Nébuleuse de Cacao, on est passé 5 minutes. Là, c'est pareil, on vient de passer quelques temps sur cette formulation, cette tournure de phrase et juste ce petit mot à deux lettres qui change complètement la perception de la phrase et qui fait qu'elle prend beaucoup plus de sens et de richesse derrière. Je vais renchaîner là-dessus. Du coup, tu vois, franchement, en une biographie sur deux lignes, on va y passer un petit peu de temps, mais je trouve que c'est intéressant pour vraiment te comprendre et comprendre comment tu travailles et comment tu fonctionnes. Et tu dis, à la suite de cette phrase-là, donc, tu dis, alors j'ai pas mis la phrase entièrement, c'est dommage d'ailleurs, mais tu dis écouter l'univers, alors qu'on aurait tout de suite tendance à penser que l'univers on le regarde, tu vois. Genre, la phrase normale, classique que moi j'aurais certainement écrite, ça aurait été passe son temps à faire des films et à voir l'univers. Non, toi tu écris passe son temps à se faire des films et à écouter l'univers. Là j'imagine que c'est pas une erreur non plus. Pourquoi écouter l'univers plutôt que voir l'univers en fait ?
Ah, quelle question Je saurais pas y répondre, mais je vais juste te préciser que je porte un regard particulier sur les sens en vrai, parce que je trouve que c'est tellement... on a une chance en tant qu'humain d'avoir des sens et de pouvoir ressentir les choses. Et il me semble que l'univers, on peut l'écouter, on peut le voir, c'est sûr, mais si on le regarde bien, c'est sûr qu'on va y voir autre chose et qu'on va même entendre quelque chose. C'est peut-être un peu psychologique et même métaphysique, mais quand on regarde l'univers, on peut peut-être entendre un appel, tu vois, vers un appel vers la lumière ou un appel vers le mouvement, tout simplement. Moi, je trouve que c'est débordant d'espoir. C'est peut-être candide, tu vois, comme manière de voir les choses. Mais j'aime beaucoup ce truc, tu vois. Et ça part peut-être aussi du fait que on m'a initié à ça, tu vois, quand j'ai été petit garçon. J'ai grandi avec des parents, des grands-parents qui passaient leur temps à me sensibiliser au monde, tu vois, sensibiliser. Il y a ouais. aussi sens dans le mot, en me disant, ah, tiens, écoute, tu vois, juste ce mot, écoute, là, il y a un oiseau, tu vois.
Ouais.
Écoute, ou regarde ce truc. Et je trouve ça hyper intéressant de sensibiliser comme ça, et au travers du sens, tout simplement, parce que c'est je pense que c'est la meilleure façon pour partager, pour transmettre.
Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, et en même temps, ça, j'ai plus de mal à accéder à cet état-là, quoi, tu vois, parce que effectivement, le toucher, j'en parle même pas, l'odorat, c'est pas question non plus, mais parce que on pense à la lumière tout de suite, mais par contre, on peut, pourquoi pas, penser à l'ambiance, sentir quand même le soir, entendre, je veux dire, les grillons qui chantent la nuit, est-ce que ça fait partie de l'univers en fait ? C'est une vraie question.
Voilà.
Quand on regarde les étoiles de la Voie lactée, les planètes, ou dans son télescope, et on entend, on est donc fixé, rivé sur l'objet céleste qu'on a dans les jumelles, ou dans les yeux, ou dans le télescope, mais à côté, il y a quand même les grillons qui chantent. Est-ce que ça fait partie de tout cet espace-là, à ton avis, ou pas ?
Voilà, c'est ça en fait. La question, c'est qu'est-ce que c'est l'univers ? Qu'est-ce que c'est notre univers ? Est-ce que c'est juste les étoiles qu'il y a au-dessus de nos têtes ? Ou est-ce que c'est tout ce qu'il y a autour de nous ?
Dedans,
est-ce que c'est l'infiniment grand ? Est-ce que c'est l'infiniment petit ? Ou est-ce que c'est le tout ? Moi, j'aime beaucoup parler, et j'ai posé un mot sur cette sensation. Moi, j'appelle ça le vertige de lucidité. C'est, et je pense que vous, les photographes animaliers, vous le rencontrez aussi quand vous êtes face à face avec un animal et que vous êtes sur le point de prendre une photo. Quand il y a cette rencontre, moi j'aime bien appeler ça le vertige de lucidité. Quand je rencontre mon objet, par exemple, ou quand je suis juste allongé comme ça sur un rocher qui fait encore chaud parce que c'est l'été, et qu'il y a l'infini au-dessus de moi, je ressens un vertige alors que je regarde vers le haut, et je trouve ça formidable d'être conscient en fait qu'on fait partie d'un tout. Quand le photographe animalier va rencontrer un animal, il va saisir l'intelligence qui est en face de lui, le côté sauvage, tu vois. Et à partir de là, il arrive aussi à prendre conscience en fait qu'il y a une nature qui est peut-être cachée, et qui est là et qui doit être préservée. Et c'est formidable comme instant, je trouve. Donc oui, écouter l'univers, c'est écouter tout ce qu'il y a autour de nous pendant l'instant d'observation. C'est pas juste regarder les étoiles, c'est avoir la chouette qui ulule, tu vois, dans la forêt. Les grillons, les lucioles qui tournent autour de nous, voilà.
On va alors pour le coup, la question est vraiment, la transition est nulle, et la question va être la chute va être un peu plus dure, mais on va redescendre un petit peu et être plutôt terre à terre. Mais est-ce que ton métier, tes études sont liées à ton activité d'astrophotographe ?
Alors absolument pas. Je suis réalisateur, donc je fais des vidéos et des films publicitaires dans une agence de communication et de pub. Et à côté de ça, je réalise des films qui sont plus personnels, d'où le projet Nébuleuse et Cacao, qui naît aussi d'une sorte de frustration de la pub, parce que c'est des mondes très différents. Je ne sais pas si tu arrives à saisir le truc, mais voilà, travailler pour des gens, c'est une chose, mais travailler pour soi, c'en est une autre. Et travailler à sa propre sensibilité, c'est quelque chose qui me porte beaucoup plus. Du coup, c'est un projet très personnel, mais j'y mets toute l'énergie que j'ai, quoi. Donc non, c'est pas mon travail, astrophotographe. Je fais des films. Être libre de faire ce qu'on veut, c'est magnifique. Et puis ça permet de se libérer aussi, et puis de s'accomplir. Mais ne pas avoir de cadre, ou ne pas réussir à poser son propre cadre pour cadrer ses énergies et puis ses idées, c'est sûr que ça peut vite aller dans tous les sens.
C'est ça, ouais.
Mais c'est pour ça que ma première vidéo... Enfin, j'ai deux vidéos sur ma chaîne qui sont deux documentaires. Je mets 6 mois en général à les réaliser, parce que j'aime bien les commencer, écrire, commencer à tourner, puis prendre le temps de revenir dessus pour me rendre compte qu'en fait, j'allais pas dans la bonne direction, reprendre à zéro, recommencer, et ainsi de suite. Tu vois, j'aime bien en fait laisser le temps aux choses de couler, justement à cause de cette histoire de carte blanche qui me fait aller un peu dans tous les sens, et que je dois canaliser, quoi. Mais c'est formidable hein, de pouvoir travailler comme ça, en tout cas.
On va remonter un petit peu dans le temps, Corentin, pas à des millions d'années-lumière, mais juste à quelques années, pour savoir de ton côté comment t'es venu cet amour pour le. Alors, quand je parle de l'univers, en l'occurrence là, c'est vraiment l'univers, c'est le ciel, le ciel étoilé, hein, et tout ce qu'il compose, les planètes, les étoiles, les lunes, les galaxies. D'où ça te vient et comment est-ce qu'il y a eu un déclic ou au contraire, est-ce que c'est venu un petit peu régulièrement comme ça? Comment ça s'est passé, cette genèse de cette passion?
Je pense que c'est un peu l'univers, c'est quand même un sujet qui est très universel, et puis le ciel étoilé aussi. J'ai la chance d'avoir grandi dans une campagne, donc dans un endroit où la pollution lumineuse est pas trop présente. Donc un petit garçon de 6 ans qui sort dans le jardin le soir, il a accès à la Voie lactée, tu vois. Quelqu'un qui naît à Paris, il a, du moins en 2019, aujourd'hui, il n'a plus accès à ça.
Et on peut même, c'est assez triste de penser, pardon, je te coupe pour entendre, mais c'est assez triste quand même. Franchement, c'est de la tristesse, hein, moi, quand je pense à ça, de penser qu'il y a quand même des millions de personnes, je crois que c'est en millions à mon avis, hein, qui n'ont peut-être jamais vu la Voie lactée, quoi.
Oui, ça, c'est, et au-delà de ça, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit d'avoir jamais vu d'étoiles filantes. Alors.
Ah ouais.
Des personnes de 20, 30 ans, tu vois. Alors qu'une étoile filante, c'est. Il suffit de sortir et de s'éloigner un peu des villes et il y en aura forcément. Parce qu'une étoile filante, c'est simplement de la poussière, en fait, qui tombe dans l'atmosphère et qui brûle. Et ça arrive très régulièrement. Donc il suffit d'être un peu attentif et on en voit forcément. Et ça, je trouve triste, mais en même temps, je me dis, ah, eh ben, vous avez de la chance parce que la première fois, vous allez voir ce que ça va vous faire et vous n'allez plus pouvoir vous arrêter.
Par rapport à la vidéo et la photo, alors tu as finalement un peu répondu dans ta réponse juste là avant, mais comment ces deux moyens d'expression sont entrés dans ta passion pour l'univers? Je veux dire, ça aurait pu être finalement développer ton côté passionnel pour l'image d'un côté, et puis finalement aussi juste prendre du plaisir à observer les étoiles sans vouloir tout de suite y mettre forcément de la vidéo ou de la photo. Comment tu expliques que les deux se sont mêlés et que tu fasses de la vidéo, de la photo d'astronomie, en fait?
C'est peut-être l'envie de rêver. J'en parlais un peu quand on parlait de ma bio. Le fait de se faire des films, c'est pour moi une manière de transmettre, tu vois. Et je me demande si rêver, ça a vraiment une utilité si on ne transmet pas tout ça. Je me dis, et pour être sincère, la première vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo que j'adressais à moi-même, en fait, en me demandant est-ce que ça vaut le coup d'essayer de transmettre ça. Et je me suis dit, si j'arrive à faire cette vidéo et qu'à chaque fois que je la regarde, ça me donne envie d'en faire d'autres, eh ben c'est que j'aurais réussi mon truc. Et je pense l'avoir réussi dans le sens où c'est une sorte de vidéo. Alors je vais utiliser le mot de prière, hein, même s'il a une connotation très religieuse. Mais j'aime bien ce mot parce qu'elle est adressée à moi-même, en fait, cette vidéo. Et il se trouve, avec tous les retours que j'ai eus, qu'il y a énormément de gens qui aiment bien la regarder à nouveau et qui m'ont fait des retours dans le sens où merci, avec cette vidéo, on a vraiment envie de sortir, on a envie de filmer, on a envie de photographier le monde et ou juste et
ça,
de l'observer.
Ça, c'est gagné, quoi. Quand on te dit ça doit être. C'est kiff absolu, quoi.
C'est ça, parce que je préfère. Et j'aime bien dire ça, c'est que mon but avec ces vidéos, c'est de montrer les choses, c'est pas d'être vu. Donc, j'ai pas un grand succès en termes de vues, mais par contre, les retours que j'ai sont incroyables. Et il y a des gens qui m'ont dit.
Dans le monde du marketing internet, hein, et même de l'internet en général, on appelle ça l'engagement, quoi, finalement.
C'est ça, c'est-à-dire l'engagement.
Il n'y a pas énormément de vues, mais l'engagement est très puissant et très fort. Ça, c'est très, très, très bien, ça.
C'est ça. Tu vois, il y a une personne qui m'a écrit « Ah bah, à cause de toi, je suis allé dans la montagne un soir avec mon télescope et j'ai shooté la nébuleuse d'Orion. » Parce que c'est une nébuleuse dont je parle dans cette première vidéo. Et je trouve ça formidable d'avoir réussi à faire en sorte que cette personne, elle sorte de chez elle, puis elle aille dans la forêt en pleine nuit pour photographier un truc. C'est le principe de l'éveil, en fait. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est un projet sur l'éveil. C'est éveiller des sens, éveiller des passions et puis inviter au mouvement. Tout simplement.
Tu parlais de projet que tu mettais 6 mois à faire une vidéo plus, et après aussi pour une autre. Il y a un projet plus global et donc très personnel. Tout ça, on va pouvoir le voir sur ta chaîne YouTube. En fait, ça va être un projet plus global. Comment ça va s'agencer tout ça finalement dans le temps?
Alors, pour résumer un peu l'historique de ma chaîne, comme ça tu comprends, j'ai sorti cette première vidéo que j'ai lancée sur YouTube comme une lettre ouverte, hein, à moi et à tous les gens comme moi. J'en ai fait une deuxième au vu des retours que tu as vu, qui est l'ISS, l'endroit exact de la solitude.
C'est ça.
Et il se trouve que j'ai été sélectionné dans le cadre d'un concours pour un festival qui s'appelle le festival Frame, qui se déroule à Avignon. C'est un festival de créateurs YouTube et de vidéastes YouTube. Et le fait d'avoir été sélectionné dans ce festival et d'avoir pu y diffuser ma vidéo, ça m'a permis de faire une demande de subvention au CNC, qui est le Centre National du Cinéma et de l'Imagerie Animée.
Ouais, c'est accepté alors du coup ou pas?
Du coup, ouais, ça a été accepté. J'ai fait une demande.
Ah, alors,
je vais donner. Non, je vais pas donner le montant parce qu'il est trouvable sur Internet, mais j'ai demandé le maximum pour réaliser 4 documentaires en 6 mois. Faut savoir que je mets 6 mois à en réaliser un en général. Donc là,
il y a du boulot quoi.
Donc ouais. Là je suis en montage et j'ai des heures incroyables de rush, mais
c'est la contrainte imposée par cet organisme.
C'est ça, ouais. Ils demandent 6 mois pour.
Ouais.
Mais parce que c'est peut-être adapté à YouTube dans le sens où souvent c'est des vidéos qui mettent pas très longtemps et c'est plus des émissions. Moi j'ai fait le choix de produire des documentaires. Voilà, il y en a un que je tourne depuis plus de 2 ans que je vais sortir à la fin de l'été là. Et il me semble que dans l'interview que tu as fait, elle s'appelait Léa, je crois, qui fait du documentaire animalier, qui parlait de faire un documentaire en 5 ans ou en 3 ans. Et oui, ça prend du temps, en fait. Et peut-être que c'est pas adapté encore, ce délai n'est peut-être pas encore adapté aux gens comme nous, mais j'y crois. Et du coup, grâce à ce projet et puis au fait d'être légitimé par un organisme comme celui-là, j'ai espoir en l'avènement en fait du documentaire un peu plus personnel sur YouTube, et je pense qu'il y a moyen de lancer quelque chose et d'inviter les gens à faire de même quoi, parce que c'est agréable et c'est incroyable de faire ce genre de truc.
On change un tout petit peu de sujet, et encore que dans la photographie, dans l'animalier, dans la nature, on sent. Mais alors, c'est peut-être un peu biaisé parce que j'écoute des émissions sur pas mal de podcasts, comme La Tête au Carré, je ne sais plus en tête les noms, mais bon, peu importe, plein d'émissions qui sont portées sur la nature. Donc du coup, je pense que mon regard est un peu biaisé parce que j'écoute des choses qui m'intéressent, et ce qui m'intéresse, c'est la sauvegarde et la défense de la nature en règle générale. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de mouvement de fond, pas assez puissant à mon goût, tu vois, sur l'intérêt que portent de plus en plus notre société, les gens sur la nature et sur la sauvegarde. Est-ce que tu sens, toi, de ton côté, qu'il y a la même chose pour l'univers? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que tu sens que voilà, il y a eu pas mal d'avancées scientifiques, il y a eu des grosses découvertes récentes, on en parle dans les grands médias, dans les grandes chaînes télé à heure de grande écoute. Bref, on peut pas passer à côté d'informations sur des découvertes récentes sur l'univers et la connaissance de l'univers. Est-ce que tu sens que à chaque fois c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, ou au contraire c'est une espèce un truc un peu puissant, un peu plus profond, qui fait que les gens prennent un peu plus conscience de, ben voilà, qu'on vient tous du même endroit, des poussières d'étoiles et compagnie, ou bon, finalement non, et puis à la limite peu importe.
Alors c'est vrai que avec l'avènement de la technologie et puis son évolution, on a accès par exemple au live de SpaceX, hein, qui lance des satellites, et ça c'est incroyable de voir ça depuis YouTube. T'es dans ton salon, tu vois une fusée qui atterrit, ça c'est incroyable. Technologiquement, c'est incroyable. Et j'ai l'impression que le rapport à l'univers, il se fait de cette façon aujourd'hui. De par la technologie, on sait qu'il y a des gens qui veulent aller sur Mars, il y a des gens qui veulent c'est dur à dire, hein, coloniser. C'est pas un mot que j'aime bien, en fait. C'est pour ça,
ouais.
Coloniser.
Ouais, mais c'est pour ça, il a du mal à sortir, ouais.
Ouais, je suis pas trop pour la colonisation.
Ouais.
Il y a des gens qui veulent aller poser des trucs sur la Lune, pour se l'approprier peut-être, je sais pas, mais en tout cas c'est de ça que les médias parlent, et c'est pour ça que c'est là où les médias ont leur rôle à jouer, mais ils en parlent d'une manière que je trouve un peu décevante. n'y a pas cette poésie que la nature et l'univers peuvent apporter dans l'œil d'un petit enfant, tu vois. Et ce que j'aime bien chez les astronautes...
C'est très technique, c'est tout de suite, en fait. C'est la performance, c'est est-ce que ça va marcher, le coût, c'est en milliards d'euros, c'est des budgets énormes, c'est de la NASA. Donc, on parle tout de suite en termes de technologie et ça manque foncièrement de poésie. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais.
C'est ça. Et puis, une dernière chose aussi avec les médias, c'est par exemple, quand il y a une super lune, d'après les médias, c'est toujours la super lune du siècle, tu vois. Il faut du clic, il faut du... Alors qu'une super lune, c'est juste une lune qui est un tout petit peu plus près de nous, tu comprends ? Est-ce que beaucoup de monde répète et c'est beaucoup partagé dans ce monde de l'astrophotographie et des gens qui aiment regarder un peu et observer le ciel, c'est que la lune, en fait, elle est comme ça tous les soirs. C'est qu'elle est splendide tous les soirs quand c'est pas couvert. C'est pas juste quand les médias ou BFM TV t'en parlent. Mais bon, voilà, ça c'est un très très long débat. Et puis tu le vois dans mon introduction. Tu vois, moi j'ai une introduction, c'est un générique dans mes films, et ça va même plus loin. C'est un rapport entre la métaphore de cette introduction. Bon, je devrais pas la dire, mais j'aime bien l'expliquer. C'est la lumière comme solution à l'enténèbrement. Voilà, si je devais la définir, c'est comme ça. L'enténèbrement, c'est ce que je regarde et c'est ce qui est en trame sonore, en gros, et qui a lieu depuis quelques années et dans laquelle on est totalement. Donc pour moi, l'émerveillement, que ce soit au travers de l'observation astronomique, de la photographie animalière ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de très important. Et au final, le sujet de ma chaîne YouTube, c'est ça, c'est pas juste l'astrophotographie. L'astrophotographie, pour moi, c'est juste une excuse pour pouvoir parler de tout ça. J'espère que tu me comprends. Ouais. C'est clair.
Alors, je te comprends d'autant plus que... alors, c'est marrant parce que, bon, du coup, quand je publierai cette interview, les gens l'écouteront, ce sera plus vrai. Mais ce matin, en fait, on a enregistré avec mes collègues Jean-Christophe Dichamp et Guillaume Manseron notre septième épisode du podcast Agora Show. On parle là, pour le coup, vraiment que de photos. Mais on a essayé un peu de prendre de recul et de voir comment on se verrait dans 10 ans. Alors, je ne vais pas spoiler et dévoiler le truc, et en gros, je disais exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi, la photographie, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Pourquoi je fais de la photographie d'animaux sauvages ? C'est pour montrer la beauté des merveilles de la nature, quoi. C'est juste ça. Mais si un jour, on met sur un plateau un autre moyen, une autre technologie, quelque chose d'autre qui me permettra d'éduquer les gens, c'est pas du tout pompeux de dire ça, c'est pas condescendant, mais d'éduquer les gens et de leur montrer que la nature est belle et qu'il faut la respecter, et que si ce moyen c'est autre chose que de la photo, eh bien moi je le prendrais, ce moyen, en fait, hein, parce que c'est encore une fois, la photographie pour moi c'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen, tout simplement.
Mais totalement, c'est qu'on a une pléthore d'outils à notre disposition et c'est fabuleux de pouvoir... Au travers de la vidéo, je peux utiliser l'image, je peux utiliser le son, mais je peux aussi utiliser la narration et la poésie. Enfin, c'est un média que je trouve incroyable parce que je peux utiliser tellement de choses pour raconter ce que je veux et pour emmener, en fait, le spectateur vers les émotions que j'ai envie de partager avec lui. Et c'est vrai que si un jour... Bon, là, il y a eu, tu sais, avec les nouvelles technologies, il y a peut-être ce truc du 360 degrés. Et de par mon travail, je sais qu'il y a beaucoup de... Bon, ça c'est chiant, mais il y a beaucoup de clients qui viennent nous demander des films en 360, en réalité virtuelle. Mais pour moi, c'est un média qui n'a pas encore trouvé sa... c'est un outil qui n'a pas trouvé sa place, je trouve. Il n'y a pas grand-chose à raconter avec ça. Pour l'instant, en tout cas, je ne saurais pas l'adapter à ce que je fais, par exemple. Mais c'est vrai que si un jour, comme tu le dis, il y a un outil... Bah, les podcasts, il me semble que c'est... Non, quand même pas. Mais c'est une manière aussi de transmettre et de...
Moi j'adorerais, mon but à quelques années, hein, c'est-à-dire c'est à moyen terme, mais là encore une fois c'est quelque chose qui est de l'ordre du projet et qui se fera peut-être pas, je sais pas, peu importe, mais moi j'adorerais faire un podcast qui serait sur le concept du marché parlé, quoi. Je marche dans la nature pour écouter le son des pas dans la, tu vois, dans la forêt, le son des les pas qui viennent se, tu vois, ce petit crissement de pieds, de chaussures sur des gravillons, sur l'herbe, sur la poussière, tout ça. Entendre les oiseaux qui chantent, je sais pas moi, le bruit de mes frottements de tissu par exemple, les branches qui viennent se frotter contre moi et qui tu vois, je les tends d'un coup et qui repartent derrière. Enfin, tous ces bruits de la nature qu'on a quand on marche. Et en même temps, parler d'un sujet naturaliste pendant, je sais pas, 10, 15, 20 minutes, peu importe. Et ouais, c'est moi quelque chose que j'adorerais faire, quoi. Et parce que, encore une fois, ce serait un moyen parmi tellement d'autres de montrer que la nature est formidable, qu'il y a des choses incroyables encore à découvrir, à connaître. Ouais, donc oui, non, mais tout est bon. Après, il faut simplement trouver le bon moyen de le faire, être passionné, parce que c'est vraiment super important, parce que quand toi, j'imagine, quand tu passes 6 mois à faire une vidéo, tu as intérêt vraiment à être animé par une grosse passion. Donc tout ça, c'est évidemment, tout ça, c'est lié. Écoute, Corentin, moi, je ne vois pas le temps passer, ça fait 35 minutes qu'on est ensemble, et on n'a pas encore parler de vraiment de prise de vue. Mais on y vient tranquillement. Voilà, c'était notre grande introduction à tous les deux. Mais voilà, quand on parle de l'immensément grand, et ça prend du temps. Donc voilà, c'est tout ça.
Explique tout ça. Il y a énormément de choses à dire.
Exactement. Corentin, peut-être la question la plus basique de toute l'interview, c'est quoi l'astrophoto?
C'est le regroupement de la photographie et de l'astronomie. Voilà. En astronomie, on observe des objets, la Lune par exemple, une nébuleuse, la Voie lactée. La photographie, on imprime une empreinte lumineuse sur notre capteur. L'astrophotographie, c'est prendre un objet céleste en photo, que ce soit la Lune, la Voie lactée, des planètes, une nébuleuse ou une galaxie par exemple.
On va tout de suite parler de ce qui peut peut-être fâcher, en tout cas c'est moi qui l'interprète comme ça. Est-ce que l'astrophotographie est accessible à tous? Ou autrement dit, qu'est-ce qui peut empêcher de photographier le ciel la nuit?
Est-ce qu'elle est accessible à tous? Oui. Voilà, est-ce que tu as d'autres questions? Non, alors elle est accessible à tous, évidemment, parce qu'il me semble, et je pense qu'en 2019, rares sont les familles ou les personnes qui ne sont pas équipées d'un appareil photo ou d'un DSLR. Aujourd'hui, il y a même des téléphones portables qui sont capables de prendre des photos d'un ciel étoilé, par exemple. Alors, je pèse mes mots, hein, parce que les photos, voilà, elles valent ce qu'elles valent par rapport au capteur qui est utilisé. Mais l'astrophotographie, c'est pas juste prendre des nébuleuses et des trucs très loin. C'est aussi simplement prendre la Voie lactée. Et ça, il me semble qu'avec simplement un DSLR, même un appareil photo, tout le monde est capable de le faire. Ça
même
demande
un compact,
juste de.
Un compact de base, bien sûr. Ouais.
Les compacts en mode feu d'artifice, il me semble que ça fonctionne aussi.
Bien sûr,
Et pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de s'y mettre? Je dirais la pollution lumineuse et puis le manque de curiosité, peut-être aussi.
On voit régulièrement passer sur Internet, notamment dans les fonds d'écran, en fait, souvent, tu vois, dès que tu veux changer ton fond d'écran ou dès que tu tapes fond d'écran sur un moteur de recherche, on a quand même très souvent des photos vraiment incroyables de nébuleuses, des objets célestes, du ciel profond. Alors, c'est toujours hyper coloré, très détaillé, très net. Est-ce que ces photos-là qui sont vraiment incroyables, est-ce qu'elles sont facilement faisables? Ou alors, très franchement, on oublie tout de suite pour le commun des mortels?
Alors, les photos que tu vas voir sur Internet, en général, si tu les vois sur Internet et qu'elles arrivent à toi, c'est qu'elles ont quand même une belle tronche, quoi. Et c'est souvent fait par des télescopes du type Hubble ou ceux du Chili.
Ah, quand même.
Oui, parce que une belle nébuleuse comme ça, en vrai, ça dépend après des objets aussi. Il y a des nébuleuses qui sont extrêmement simples à photographier. La nébuleuse d'Orion, par exemple. Bon, c'est en hiver. Voilà, il faut sortir dans la neige, il faut sortir dans le froid. Mais même avec un 1855, par exemple, tu es capable de voir la nébuleuse d'Orion.
D'accord.
Alors évidemment, tu vas la voir tout petit, hein, perdu dans un champ d'étoiles. Mais de savoir que ce petit truc laiteux là, qu'il y a sur ta photo et qui a un peu de couleur rose et bleu, c'est une nébuleuse. Eh ben moi, je trouve ça formidable. Et c'est ça le cheminement qu'il y a à faire, en fait. C'est partir de l'équipement qu'on a, de mon petit appareil photo, de la petite focale que j'ai, sortir, voir en fait ce que je peux photographier. Si je pose mon appareil photo ici, je vise le ciel, je mets une pause de 30 secondes. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer, les histoires de pause et de temps de pause.
Ouais,
et,
ouais, c'est bon.
Parce que c'est quand même très technique et je vous invite à aller vous renseigner si vous vous y connaissez pas, mais il me semble que voilà, c'est quand même quelque chose à connaître si on veut se lancer dans l'astrophoto.
Et c'est quand même assez incroyable de se dire, tu parlais de cette petite nébuleuse qu'on peut choper avec un appareil photo très basique, de dire que, tu me dis si je me trompe, hein, mais ces photons-là, donc ce qui constitue la lumière, ce sont bien des photons, hein, je ne me trompe pas, ces photons qui ont été imprimés ton capteur de ton petit DSLR acheté dans la petite boutique du coin, ce sont des photons qui viennent d'une nébuleuse qui ont été émis il y a des millions d'années, quoi. Ils se retrouvent là, précisément sur ton capteur à toi, et tu vois le résultat apparaître. Alors c'est numérique, hein, c'est une traduction numérique, mais tu le vois apparaître quand même après sur ton écran. Et il y a quelque chose d'assez incroyable, quoi, finalement, quand on pense à ça, quand on pense à ce parcours fait par ce photon-là, cet élément vraiment basique-là, eh ben, il se retrouve sur ton écran. Il y a quelque chose d'assez incroyable quand on pense à ça, finalement, en fait. Hein.
Oui, mais c'est bouleversant, en fait. Et tu le vois dans la vidéo. Ouais. C'est incroyable, tu vois, d'avoir ton appareil photo, un objectif avec une grande focale, par exemple, un 300 mm ou plus. Alors moi, j'utilise des télescopes. C'est, pour faire simple, en gros, en photographie animalière, tu utilises un 300, un 400, un 600 mm.
Ouais.
Parce qu'ils sont compacts, tu vois, ils sont compacts, ils sont très chers, mais ils sont compacts et lumineux. Quand on fait de l'astrophotographie, on peut prendre des télescopes parce qu'on va les poser dans notre jardin et qu'on va pas les trimballer. Enfin, ça dépend des gens, mais il y a des gens qui aiment prendre des gros télescopes très lumineux, voilà, qui avec des très grosses focales. Mais ce qui est incroyable, c'est de savoir que avec ces outils, on photographie le passé. Et ça, c'est
C'est ça en fait.
C'est ça qui
exactement.
Parce que la nébuleuse d'Orion ou la Lune, par exemple, aussi, ou le Soleil, par exemple. Il me semble que la lumière du soleil met 8 minutes à venir jusqu'à nous.
C'est ça. C'est-à-dire que quand c'est l'été et qu'on, même bon, l'hiver, hein, ça peut marcher aussi, et qu'on se fait chauffer, on sent le rayon lumineux qui nous chauffe là, le bras, la peau, c'est un rayon lumineux qui nous atteint alors qu'il était émis il y a 8 minutes en fait. Et ce qu'on voit quand on voit le soleil, c'est le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. C'est ça, hein ?
C'est ça.
Et donc,
ouais,
et
la nébuleuse d'Orion,
remontes, ouais. Et ouais, c'est des millions d'années de lumière, j'imagine.
Ah oui, alors la nébuleuse d'Orion, ouais, c'est 1500 années de lumière. Donc
ah oui,
ça
d'accord.
veut dire qu'on la voit comme elle était il y a 1511 ans. Galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus grosse à côté de la nôtre, elle est à 2,5 millions d'années de lumière.
Ouais, c'est vertigineux, on prend vite le vertige quoi, quand on pense à ces chiffres-là. Est-ce qu'en gros, tout le monde, avec son petit appareil, que ce soit un portable ou un petit compact, bridge ou même réflexe, mais de base avec un objectif du kit qu'on achète qui va avec, est-ce qu'on peut tous se faire plaisir, je veux dire, super vite et avoir des résultats valorisant rapidement. Je ne parle pas des photographies qu'on peut voir qui sont prises par des télescopes assez incroyables, inaccessibles pour 99,9% de la population. Mais est-ce qu'on peut quand même, même en une soirée, tu vois, à faire une belle photo, la montrer à ses proches, et les proches vont se dire « Ah, mais c'est incroyable, quoi, comment t'as fait ?» Est-ce que c'est possible, ça ? Et si oui, c'est possible, quels sont les sujets parfaits le sujet parfait pour justement avoir ce genre de résultats hyper valorisants et rapidement ?
Alors, je vais parler un peu de technique alors, parce qu'il me semble que c'est ça la question. Je vais pas parler de est-ce que la photo est une bonne photo s'il y a juste la voie lactée ou s'il y a une sorte de composition.
Oui, oui, oui.
Hein.
Ouais.
Alors, techniquement, il y a des solutions aussi pour améliorer en fait tes photos. C'est-à-dire que ça s'appelle le développement, en gros, que tu connais et que tous les photographes qui te suivent, je pense, connaissent, qui est développé en fait développer la photo sur Lightroom, sur Photoshop ou sur un logiciel. Mais en astrophoto, il y a une étape en plus qui permet d'améliorer incroyablement en fait tes photos. Mettons, tu es dans un champ, d'accord ? Il y a la voie lactée au-dessus de toi, il n'y a pas de pollution lumineuse. Tu vas poser ton trépied, ton appareil photo, tu vas prendre une photo de 30 secondes à peu près. Ta photo, elle est belle, d'accord ? Il n'y a pas trop de bruit. Tu es content. Tu sais que si tu vas essayer de la développer après, ça va donner quelque chose de correct. mais c'est là toute la... C'est là que c'est un peu technique, c'est que si tu prends, mettons, une vingtaine de photos, 20 fois la même photo, d'accord, comme si tu faisais un timelapse, en gros.
D'accord.
Tu vas avoir 20 fois la même photo.
30 secondes à chaque fois, ok.
Voilà, par exemple. Et ces photos, ensuite, tu vas pouvoir les compresser, c'est-à-dire les superposer les unes sur les autres, aligner d'accord. toutes les étoiles. Et en d'accord. fait, plus tu vas en superposer, plus ça va réduire le bruit, donc ton image sera propre, et plus ça va augmenter le signal, donc les infos qu'il y a sur ta photo. D'accord. Et après, et en fait, une fois que ça s'appelle le stacking, ça, ça c'est un mot anglais.
To stack, c'est empiler en anglais. Ouais. C'est empiler, to ouais. stack en anglais, oui.
Et après, on passe au développement, et là, on se rend compte que, waouh, il y a des possibilités incroyables. Il suffit juste de prendre un peu plus de temps pour prendre une dizaine de photos, les empiler et faire ressortir la beauté d'une Voie lactée.
D'accord, c'est, donc c'est-à-dire que c'est... finalement, c'est le matériel forcément a un impact sur la qualité de la photo finale, mais pas tant que ça. Et ce qui va réellement sublimer la photographie, c'est le temps qu'on va y passer, surtout la quantité de photos qu'on va faire et après les empiler. Et ça, alors du coup, par contre, derrière, il faut quand même le logiciel qui, maintenant on en parlera après un peu plus loin, mais il faut un logiciel qui aille bien aussi, parce que j'imagine que là aussi c'est technique, mais la Terre tourne sur elle-même, donc ça veut dire que si je prends 10 photos de 30 secondes, ça fait donc 300 secondes, ça fait, je sais pas, 3-4 minutes. Et entre 4 minutes, la Terre a tourné, donc les étoiles sont plus tout à fait au même endroit, quoi. Et est-ce que c'est moi qui vais aligner avec mes petites mains pour que toutes les étoiles soient pile au bon endroit? J'imagine que non, parce que c'est pas possible. Qui s'en charge? Comment on fait pour ça, en fait?
Ah, t'en fais pas pour ça. L'être humain a évolué et a créé des logiciels formidables qui font ça pour toi maintenant. Ouais. Qui arrive à calculer les étoiles, à calculer tout. Ben oui, il calcule les étoiles, puis il arrive à les aligner. Et c'est assez d'accord. incroyable. Il y a beaucoup de logiciels gratuits. Je pense au logiciel Cyril, qui est un logiciel français.
Comment tu l'appelles?
Qui marche très bien. Cyril avec un S. Qui est fait par un monsieur. R-I-L. Voilà.
S-I-R-L, d'accord.
Qui est fait par un monsieur qui s'appelle Cyril, il me semble.
D'accord. Voilà.
Et qui est assez incroyable. Il y a beaucoup de tutoriels sur Internet et une belle communauté aussi qui l'utilise. Donc, c'est vraiment facile d'accès. Tu parlais du matériel. Je voudrais juste faire une petite aparté sur le fait que... Est-ce que tu connais la nébuleuse de la tête de cheval?
Est-ce que ça te parle? Oui. Ça me parle.
Je vais essayer de la décrire. C'est une sorte de voile nuageux rouge. D'accord. Il y a une sorte de nuage noir devant qui ressemble à un cheval. Voilà pourquoi on l'appelle la nébuleuse à la tête de cheval. Cette nébuleuse, elle est rouge, d'accord. Il faut savoir que ça, c'est du rayonnement, le rayonnement de l'hydrogène. Et ça, c'est un truc que nos capteurs d'appareils photo, bah, ils peuvent pas accepter, en gros, parce que sur les capteurs CMOS, alors là c'est quelque chose de très technique, mais je te l'explique quand même, tu verras si tu le gardes ou pas.
D'accord.
Les capteurs CMOS, avec une matrice de Bayer, il y a un filtre en fait qui empêche les longueurs d'onde invisibles, donc les ultraviolets, les infrarouges, de rentrer sur le capteur et fausser un peu les couleurs. Parce que, comme pour nous, l'être humain c'est invisible, tu vois, les ultraviolets, les infrarouges, ben, c'est pas nécessaire de l'avoir sur une photo. L'être humain n'est pas capable de le voir, ton appareil photo, il ne le prend pas en photo, donc en fait, c'est invisible pour nous, tu vois. Mais quand on veut prendre une nébuleuse comme ça en photo, il y a une manip qui est faite par beaucoup d'astrophotographes qui consiste à retirer ce filtre qu'il y a sur chaque capteur pour pouvoir développer en fait le potentiel de ton capteur et capter
beaucoup
plus...
C'est du gros bidouillage quand même, là. Ouais, là, c'est du gros bidouillage. De... Oui. Ouais, c'est fin, quoi.
Là, c'est... Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, moi j'essaie de faire de l'astrophotographie quelque chose de très simple et de plus universel. Mais c'est vrai que si on veut rentrer dedans plus profondément, c'est extrêmement technique et passionnant. Ouais, mais c'est pas la meilleure façon d'inviter quelqu'un à s'y intéresser, il me semble. Ça peut faire peur.
Est-ce que tu peux lever un autre mythe ou une autre fausse croyance? Est-ce que l'astrophoto ne peut se faire qu'en été?
L'astrophoto ne peut se faire que quand il n'y a pas de nuages. Et encore.
Ah, ben voilà. Donc tu viens de me lever une grosse fausse croyance.
Ouais. Donc tu peux le faire le jour, tu peux le faire la nuit, Tu peux le faire l'été, tu peux le faire l'hiver. Voilà. Parce que le jour, tu peux prendre le soleil en photo, qui est aussi un domaine qui est hyper intéressant, parce qu'il y a des éruptions solaires, il y a des trousses, des taches solaires, c'est incroyable. La nuit, parce qu'il y a énormément d'objets à photographier. Et l'hiver, c'est sûr que ça donne pas trop envie de sortir pour se coucher dans l'herbe, et, enfin dans la neige, pour regarder un ciel étoilé, mais il faut savoir que le ciel l'hiver est différent de l'été. La nébuleuse d'Orion...
Par rapport à la position des étoiles, c'est ça, hein, par rapport au spectacle offert, quoi.
Ouais. La nébuleuse d'Orion, on peut la voir que l'hiver, et Jupiter, par exemple, on la verra plus... on la verra pas toute l'année non plus. Jupiter, d'accord, qui est une planète qui est facilement observable à l'œil nu, et il me semble que si tu essayes avec ton appareil photo à toi et ta longue focale de photographe animalier, t'essaies de la repérer. Alors il y a plein d'applications que tu peux télécharger sur ton téléphone, des trucs comme Stell Vision, il me semble, ou des cartes du ciel en gros, qui te permet de repérer la planète. Et si tu zoomes dessus avec ton appareil photo et ta longue focale, tu vas voir quelque chose de bouleversant, parce qu'à partir de 300 mm de focale, Jupiter, tu vas commencer à apercevoir ses lunes.
Ah ouais.
Et voir les lunes de Jupiter, tu vois, de voir
aligné, ça, on voit aligné. Des petits points alignés, ouais, c'est magnifique, ouais.
C'est bouleversant. Ça a l'air de rien, mais quand c'est la première fois que tu l'observes, c'est un des premiers objets que j'ai observé après la lune, c'est bouleversant de vertige de lucidité.
Ah mais complètement, moi je me souviens avoir vu, d'ailleurs voilà, je le dis maintenant, je ne sais pas quand je voulais le placer, mais je le place tout de suite, en plein milieu comme ça les gens écoutent, c'est sûr. Il y a cette fameuse nuit de la lune des étoiles, là, c'est très bien hein, pour vulgariser, pour en parler, c'est très bien. Mais je conseille aux gens de ne pas attendre la nuit des étoiles pour aller voir les étoiles. En fait, ce qu'il faut vraiment faire pour vraiment... voir des objets célestes et, comme tu dis, être bouleversé par ce qu'on voit, c'est se renseigner très vite sur Internet et regarder s'il y a un club d'astrophoto, ou même d'astronomie, hein, pas forcément photo, mais un club d'astro, près de chez soi. Moi, il y en a à 40 km de chez moi, et l'été dernier, j'y suis allé deux fois. Une fois, lors de la nuit des étoiles, la première fois d'ailleurs, il y avait un monde fou. Et donc, du coup, c'est bien, parce que tu sens qu'il y a un engouement, c'est hyper... il y a une espèce d'émulation qui se crée, c'est super. Mais il y a beaucoup de monde, donc t'en profites un peu moins. Et j'y suis retourné une deuxième fois, où c'était ouvert aussi, hein, vous régulièrement les spots d'observation. Et là, il y avait beaucoup moins de monde, c'était génial. Et je me souviens avoir quasiment pas pouvoir, physiquement presque en fait, m'enlever l'œil d'une... Parce qu'ils mettent à disposition des lunettes qui sont tenues par les bénévoles en fait. Donc nous, on n'a rien à faire, on met l'œil dedans et on observe, c'est juste génial. Et c'était les anneaux de Saturne. Ça m'a scotché. Ils auraient pu me montrer l'une des nébuleuses la plus lointaine possible, le truc le plus incroyable possible. Je n'arrivais pas à me défaire de cette image de ces anneaux de Saturne qui était. Je voyais vraiment, si tu veux, la bille blanche et autour un anneau, quoi. Et on voyait le noir qui séparait, si tu veux, la bille, Saturne, des anneaux, et on les voyait d'une netteté. C'était juste incroyable. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'est un spectacle qui est fascinant, quoi, vraiment qui est fascinant. Alors vraiment, je vous invite, si vous n'avez jamais eu la chance d'observer ce genre de choses-là, regardez sur Internet, sur votre moteur de recherche préféré, et vous regardez club d'astronomie, regardez le plus proche de chez vous, appelez quand est-ce que c'est possible d'y aller, en été, parce que c'est plus sympa quand même, voilà, même si ce n'est pas les meilleures conditions, le soleil est un peu moins pur, mais bon, peu importe. Mais les gens sont passionnés, les bénévoles sont top, et vous allez voir des choses qui sont bouleversantes. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose absolument à faire. C'est gratuit, c'est top, quoi.
Ah, c'est... Merci pour ton témoignage, en vrai, parce on sent qu'il est sincère et qu'il vient de la bouche de quelqu'un qui a vécu l'émerveillement, qui est quand même un mot auquel je crois et qui... On en a parlé avant, hein, mais je ne veux pas remettre une couche là-dessus, mais on sent qu'en voyant ce truc nouveau, pour toi, ça t'a ouvert un champ des possibles et ça t'a juste fait prendre conscience de quelque chose. Et de voir le monde avec lucidité comme ça, on voit à quel point c'est important, comme t'en parles avec passion, en tout cas.
Ouais. Ouais, complètement. Alors, je reviens sur cette histoire d'été, d'hiver, tout ça. J'ai entendu dire que l'été, avec les chaleurs je parle pas des positions d'étoiles dans le ciel, parce que finalement, tout est toujours très beau, mais par rapport aux chaleurs et la perturbation atmosphérique, est-ce que c'est vrai que l'hiver, le ciel est plus pur, au sens où les étoiles sont plus, tu vois, plus fines, plus précises que l'été, et du coup, est-ce qu'on n'aura peut-être pas intérêt à s'acheter une grosse doudoune, tu vois, et à prévoir des belles soirées de ciel l'hiver? Comment tu vois la chose, toi?
Alors, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. L'été, il fait très chaud quand on est en ville, et on l'a tous vécu, ce qu'on appelle un mirage. C'est quand on voit au loin sur une route, qu'on a l'impression qu'il y a de l'eau. Voilà, c'est la chaleur en fait qui va créer de la turbulence atmosphérique. Okay, donc qui va faire en fait des sortes de vaguelettes dans l'air. Donc si on va observer la lune par exemple, eh ben elle va faire comme si elle sautait comme ça, comme s'il y avait des vagues en elle. On va pas la voir nette à cause de la chaleur. D'accord? L'hiver, ça peut être mieux, mais il faut choisir son jour, parce que s'il a plu la veille, en fait, voilà, l'atmosphère va être très humide, et ça va avoir aussi un effet brouillant, comme ça, sur Donc, l'été, l'hiver, il y a forcément des jours plus propices à la sortie, à l'observation. Il faut juste que ce soit sec.
Quelles sont les conditions idéales, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faut éviter vraiment comme conditions qui empêcheraient de réussir ces photos, ou en tout cas de faire des observations?
Alors, je reviens du désert du Sahara, parce que j'ai tourné le dernier épisode de ma série là-bas, parce que c'est un rêve de gamin d'aller passer une nuit dans un désert, mais je sais pas d'où ça vient, peut-être du Petit Prince ou de toute l'œuvre de Saint-Exupéry, je sais pas, mais d'être dans un désert, dans un endroit très aride, tu vois, le climat est aride là-bas, il n'y a pas de pollution lumineuse, et la Voie lactée se voit à l'œil nu. C'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté, et qui est bouleversant.
Même en France, quand même, non? Quand tu dis qu'on la voit à l'œil nu, je veux dire, même moi, là, en Auvergne, vers le Puy-en-Velay, je m'éloigne un petit peu. J'ai la chance d'avoir une commune, une municipalité qui éteint les lampadaires, l'éclairage public à minuit. Je sors un peu, il me semble que je la vois, la voie lactée, non? Mais c'est un autre spectacle quand tu dis ça?
Ah oui, oui, oui.
Ah, ouais. Alors, ah oui, d'accord.
Tu peux voir la voie lactée en France, parce qu'il y a une commune sur trois en France, il me semble, d'après la NPCEN, qui éteignent partiellement ou totalement leur feu la nuit, donc leur éclairage public. Et ça, c'est formidable, parce que, bon, pour parler un peu de ça, depuis 2018, il y a des lois qui sont entrées, qui ont été votées, et qui obligent en fait à éteindre les enseignes lumineuses, par exemple, ou la publicité, les bâtiments publics, après 1h du matin, ou les entreprises, les commerces. Bref, et c'est formidable de voir qu'il y a une prise de conscience aussi d'un point de vue national. Mais dans le désert, ouais, les conditions sont tellement parfaites que ça n'a rien à voir avec la France, en fait. Mais ça joue aussi. D'accord. Peut-être parce que tu es au milieu d'une dune, il y a du sable partout, tu n'entends aucun bruit. Ça, c'est perturbant. Oui. Et au-dessus de toi, il y a une voie lactée incroyable. Mais du coup, les conditions parfaites, c'est pas de nuages déjà. Pas de lune, on n'y pense pas, mais la lune, ça vient brouiller en fait la Voie lactée, et puis les étoiles. Même
en fait,
si
clair,
la lune,
quoi.
C'est fascinant à regarder. Quand c'est clair.
C'est fascinant, mais ça éclaire. Ouais.
Oui, c'est ça, ouais. Les villes, il faut essayer d'éviter les villes. Mais on en parlait avant, suffit de s'écarter un peu des villes, de trouver une commune dans une vallée, ou alors en altitude, où il n'y a pas de lumière qui éclaire. Et le ciel, il va s'offrir à vous. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir sur l'infini. Et puis, vous avez juste à sauter dedans, puis à partir en voyage.
Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Donc, on parlait du spot photo, donc assez loin des villes. On a parlé de la météo qui doit être idéale, hein, dans la mesure du possible. Par rapport au sujet photo, de la Voie lactée, c'est quand même quelque chose qui est facilement faisable, parce que c'est accessible à n'importe quel type d'appareil photo, finalement. On va parler un peu plus matériel. Alors, on l'a déjà un peu évoqué, en fait, mais peut-être que tu pourrais confirmer. C'est quoi le minimum du minimum pour sortir une photo qui soit vraiment très intéressante? Je ne parle pas de l'esthétisme, de la composition, mais aboutie en tout cas techniquement, et qui soit fait dans les règles de l'art. Voilà, qu'est-ce qu'il faut au minimum en fait?
Alors, je vais donner mon kit, comme ça Puis je vais essayer juste d'expliquer quelque chose avant.
Ouais, c'est bien. Alors,
dans l'univers, il y a des corps qui émettent de la lumière, et il y en a d'autres qui la réfléchissent. Le soleil, c'est une étoile, donc il émet de la lumière, d'accord ? La lune, elle réfléchit la lumière du soleil. Quand on prend des étoiles en photo, il faut qu'on pose longtemps. Ça, j'espère que tout le monde le comprend. On va laisser le capteur ouvert pour qu'il y ait le plus de lumière qui rentre possible, le plus de signal possible. Or, on l'a dit tout à l'heure, le ciel a tendance à tourner à cause de la rotation terrestre. Et ça, c'est un problème quand on pose longtemps. Et ce qu'on utilise en astrophotographie pour faire des photos un peu plus poussées, ça s'appelle une monture équatoriale. Les photographes, toi, je pense que tu as un trépied qui pivote sur l'horizontale et la verticale. Mmh. Voilà. L'axe de rotation, il se fait verticalement. Voilà. Une monture équatoriale, c'est comme si on prenait ton trépied et qu'on alignait l'axe de rotation avec l'étoile polaire. Mettons, tu sors dans un champ, tu observes, tu trouves l'étoile polaire, qui est l'étoile qui indique le nord, d'accord ? Si tu prends cette étoile en photo toutes les 30 secondes pendant toute la nuit, tu vas te rendre compte que toutes les étoiles tournent autour d'elle. Parce qu'en fait, elle indique le nord, d'accord ? Maintenant, imagine, tu as un ballon de basket que tu fais pivoter sur ton doigt, qui tourne comme ça. L'axe de rotation, c'est ton doigt, d'accord ?
Ouais.
Maintenant, on va imaginer la Terre. L'axe de rotation, c'est l'axe nord-sud, tu vois, qui traverse, ok ? Et quand tu regardes vers l'étoile polaire, ben c'est dans la direction de cet axe que tu regardes, ok ? Donc maintenant, si ton trépied, tu l'alignes avec cet axe, et ben t'auras juste à pivoter en fait horizontalement, et puis ça va adopter en fait le mouvement de la Terre, le mouvement de rotation de la Terre. Mais il y a un dernier truc qui rentre en jeu, c'est la vitesse. Et c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir une monture équatoriale ou alors un petit moteur qui permet de compenser ce mouvement.
Tu veux dire que avec une monture équatoriale et un petit moteur qui simule finalement la rotation de la Terre, en fait, qui va accompagner accompagner la rotation de la Terre en même temps, du coup, tu n'auras plus ce problème de filet d'étoiles qu'on a quand on pose trop longtemps avec un trépied fixe, et on va avoir ce filet d'étoiles qui est dû à ça. C'est-à-dire qu'en fait, si moi j'y connais rien et que je me dis tiens, je vais prendre mon 300 mm. Parce que ça va zoomer fort et tout. J'ouvre au maximum, je mets 1600 ISO par exemple, je mets 30 secondes à 300 mm, hein, et que je pointe sur Jupiter, parce que comme ça je me dis, ben voilà, je vais peut-être pouvoir voir un petit truc sur Jupiter, ou bien notre Saturne, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer en fait si je fais ça ?
Ça va être très flou, parce qu'à 300 mm, à 30 secondes, ouais, plus tu zoomes, plus les objets vont passer vite dans ton champ. Si tu as un télescope de 2000 mm et que tu regardes la Lune, au bout d'un moment, elle va sortir de ton champ parce que la Terre tourne. Et donc, utiliser un petit moteur, ça permet de compenser ce mouvement et de poser plus longtemps et d'éviter ce filet d'étoiles. Ouais.
Et complètement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la règle, tu sais, qui veut que, je sais pas, pour tant de millimètres de focale, on a le droit à tant de secondes avant cette apparition du filet d'étoiles ? Il y a une règle comme ça, là ?
Oula, alors je l'ai pas en tête. La règle de règle étoile focale.
Ça se trouve sur internet assez facilement, je crois. Mais par exemple, un ordre d'idée, si je suis au 20 mm, il y a un calcul qui est très basique. Ouais. Hein. Ouais, mais peu importe, à la limite. Mais c'est quoi ? Si j'ai un 20 mm, ouais, c'est quoi ? C'est 20-30 secondes, quelque chose comme ça, quoi. Et plus j'augmente ma focale, plus le temps d'exposition se réduit si je veux, avant d'avoir cette apparition du filet d'étoiles, quoi. Mais ça, c'est un vrai. Effectivement, c'est une vraie contrainte, en fait, cette rotation de la Terre, quoi.
Ah oui, bah clairement, ouais.
Ouais.
Mais cette règle-là, je la connais, mais je ne l'ai pas en tête, et c'est vrai que je ne l'utilisais pas trop. Je le faisais un peu au feeling en me disant, je vais essayer à 20 mm.
Erreurs, quoi. Ouais. C'est ça, ouais, tu fais des essais-erreurs, quoi, tu vois jusqu'où tu peux aller. Alors, tiens, si je veux aller un peu plus loin, et j'ai quelques centaines d'euros à investir, je sais pas, peut-être 1000 euros le grand maxi, c'est quoi? Ce serait d'abord d'acheter une monture équatoriale pour plus pour s'enlever cette contrainte-là de la rotation de la Terre. Ce serait d'abord une monture équatoriale plutôt que d'investir dans un objectif plus lumineux, par exemple. C'est ce que tu pourrais conseiller, notamment?
Alors, c'est toujours une question très compliquée parce que ça dépend toujours de ce que tu veux en faire, tu vois. Alors, moi, j'ai préféré acheter une monture équatoriale avant parce que je sais que j'avais un appareil photo, un objectif basique et que je voulais juste, en fait, poser plus longtemps sur ma voie lactée pour avoir plus de signal. Donc, j'ai fait le choix d'acheter ça en premier. Mais il faut savoir qu'il y a... On est en 2019, donc des montures équatoriales, il en existe des toutes petites qui permettent de mettre juste un DSLR et un 150 ou un 300 mm. Et d'accord, ça coûte moins de 300 euros et c'est formidable. Ah ouais. Il me semble que Skywatcher en font. Bon, j'ai pas les références en tête, mais il y en a plein.
Ouais. Après, et donc ça peut être vraiment un vrai palier, quoi. On peut franchir un vrai palier pour celui qui veut s'investir là-dedans et faire des belles photos. Ouais.
Ben c'est ça. Mais après, il faudra encore, si tu veux passer d'un objectif photo de 300 mm à quelque chose de plus conséquent, comme une lunette ou un télescope de plus de 1000 mm, là, il va falloir que tu investisses dans une monture équatoriale ou une monture qui supporte aussi le poids de tout ça, parce que c'est important que ce soit stable et que ce soit... Donc, il faut commencer... C'est mon conseil, il faut commencer avec ce qu'on a, essayer de s'acheter des kits au fur et à mesure de nos envies et de nos besoins. Mais c'est pas intelligent, je pense, d'acheter un gros télescope et de pas avoir la monture qu'il faut, de le laisser au garage, prendre la poussière. Parce que c'est une passion qui peut très vite faire souffrir le porte-monaille. Quand on voit la taille des télescopes, il y a des gens qui utilisent... Alors là, ça va être très technique. Il y a des gens qui utilisent des caméras CCD, donc qui sont des capteurs refroidis, où il n'y a pas de matrice de Bayer dessus, d'accord ? Ou il y en a des fois, mais en tout cas, c'est des caméras qui coûtent très cher, tu vois. Ouais. Ils utilisent des roues à filtre. Donc les photos que tu vois sur Internet, par exemple une nébuleuse qui est bleue, qui est jaune, ben c'est... Mettons, il y a 10 heures de pause avec un filtre qui fera que la lumière bleue. Il y a 10 heures de pause avec le filtre, un autre filtre qui va faire tout ce qui est jaune sur la photo. Et ça met en fait en évidence certains gaz. C'est pour ça que c'est si découpé en fait et que la vibrance est intéressante. Mais pour arriver à un stade comme ça, ça demande des heures de passion et de...
Bien sûr. Et des années d'échanges, d'achat d'équipement, d'essais aussi. Quand je parle d'échanges, c'est vraiment tu me prêtes ça, je te prête ça. Mais forcément, ça ne fait pas d'un coup.
C'est sûr.
C'est évident. Question réglage. Parce que c'est franchement quelque chose qui peut faire un peu peur, notamment par rapport aux conditions extrêmes, et je parle vraiment de la lumière qui est pour le coup qui est absente, quoi. Enfin, en tout cas non, qui n'est pas absente, mais nous en tant que photographe animalier ou même notre type de photographie, la lumière du soleil, c'est notre matière première. C'est avec ça qu'on fait notre photographie. Pour le coup, la nuit, il n'y a plus cette lumière du soleil. C'est donc la lumière des étoiles qui sont d'autres soleils, mais elles sont très ténues, quoi, très peu présentes. Alors, c'est quoi les grands principes en termes de réglage qu'on va appliquer pour quand même pouvoir capter cette lumière des étoiles, qu'elle soit celle des étoiles ou même celle des planètes qui soit réfléchie, peu importe, mais qui reste quand même très faible? Qu'est-ce qu'il faut pour... Quels sont les grands principes pour quand même capter cette lumière qui est faible?
Ben, ça va être... C'est les principes de la photographie basique. C'est un objectif lumineux ou un télescope rapide, dans le sens où il est lumineux aussi, donc avec un rapport de diamètre et de focale qui peut descendre très bas. Quoi d'autre? Il y a le temps de pose. Plus c'est long, mieux c'est. Il y a des gens qui ont des montures équatoriales, qui ont un télescope dessus, mais qui en plus ont une lunette d'autoguidage, d'accord? Donc c'est une lunette qui va filmer une petite étoile et qui va dire... Ok, ben celle-là, je la laisse au milieu de mon capteur et je le dis à la monture si jamais il y a une erreur. Tu comprends ?
D'accord.
Et ils arrivent à poser plus de 10 minutes, par exemple, sur un objet à 2000 mm de focale. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est comme si toi, au bout d'un champ, tu avais un renard dans ton viseur et que tu le laissais au milieu de ton viseur pendant 10 minutes alors qu'il est en train de bouger. Bon, le mouvement est régulier, donc, mais c'est quand même incroyable, je trouve. Et ça demande des années d'expérience.
Et par rapport au un réglage type, ce serait quoi? Donc ouverture maximum. Donc on se met. Alors c'est quoi? On se met en manuel. Et là on c'est toujours la même chose. Je sais pas. On monte un peu en ISO. On met ouverture maximum. Le temps, on le met en fonction de notre focale pour pas qu'il y ait cette fameuse traînée d'étoiles. Comment on gère tout ça en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Moi j'aime bien le faire au jugé. C'est j'arrive sur place et puis je vois quels sont les réglages les plus adaptés. L'histoire du stacking que je t'expliquais avant, le fait d'empiler ces photos, ça peut te permettre de monter en ISO aussi, parce que tu sais que tu vas atténuer en fait ce bruit et que tu vas pouvoir le nettoyer ensuite. Mais après l'ouverture, est-ce que c'est bien de descendre à l'ouverture la plus basse? Souvent les objectifs ils sont pas leurs meilleurs.
À ce moment, à cet extrême-là, quoi. Le piqué n'est pas optimal.
Souvent, c'est un peu au-dessus, donc ça dépend toujours du matériel et puis des instants et du lieu dans lequel tu photographies.
En fait, cette histoire de stacking-là, j'ai l'impression que je m'en rends pas compte. Enfin, je m'en rends compte un petit peu maintenant en t'écoutant, mais permet vraiment de s'affranchir du bruit numérique. C'est-à-dire que si on prend 10-20 photos, on va pouvoir, le logiciel va pouvoir réduire ce bruit numérique là, donc c'est vraiment en fait quelque chose qui est quasiment indispensable, j'ai l'impression, non, de faire 10 photos comme ça.
C'est ça, alors moi j'ai juste parlé des 10 photos de la Voie lactée, qu'on va appeler les lights, hein, parce que c'est là où il y a de la lumière, pour inviter les gens qui nous écoutent et plutôt aussi à te renseigner sur le sujet, mais après il y a une autre manip à faire, et c'est une autre solution aussi, c'est qu'une fois que tu as fait tes 10 photos de la Voie lactée, tu vas faire 10 photos avec le capuchon par exemple. Et c'est en fait là tu vas imprimer, tu vas faire une empreinte du bruit électronique.
Avec
tu vois,
donc les mêmes réglages. Du coup, c'est les mêmes réglages.
Ouais.
Réglage égal. C'est ça. D'accord.
Ouais. Et ça tu vas l'intégrer aussi dans ton logiciel. Les logiciels sont prévus pour ça et ils vont automatiser tout le processus.
Donc je vais faire ma première photo de Voie lactée. Mon réflexe de base, c'est la 18-55 mm. Ça ne monte pas super en ISO, parce que c'est un vieil appareil qui n'est pas forcément très performant. L'ouverture max est un peu limitée. La qualité optique est moyenne. Et donc je fais ce qu'on a dit, c'est-à-dire que j'y vais un petit peu au jugé, je tâtonne, je regarde un petit peu si c'est... Tiens, 30 secondes à 18 mm, j'ai pas traîné d'étoiles, donc du coup, je vais garder 30 secondes. Je vais monter à 1600 ISO, voir ce qui se passe, et puis j'en fais 10 comme ça. Et puis après, j'empile, et puis j'ai mon logiciel, et j'essaie de faire ma photographie. Et donc, tu l'as dit, et du coup, la question devient caduque, mais une fois que la photographie est faite, ou les photographies sont faites, en fait, du coup, c'est vraiment pas fini. Hein. C'est quasiment presque plus important que dans la photographie animalière ou de nature. Le passage, étape suivante, qui est le passage au post-traitement, hein, proprement parlé, est vraiment hyper, hyper important, quoi. Donc ça, on ne peut pas s'en affranchir finalement.
Ah non, c'est... on peut, parce qu'il y a beaucoup d'astrophotographes, et moi je le fais souvent, c'est que je prends une instantanée de mon ciel, et puis je la publie comme ça, je la laisse telle quelle, parce que j'aime bien me dire que je l'ai un peu traitée, mais ça reste quelque chose de pur, c'est pas un empilement, quoi. C'est à peu près ce que j'ai vu en réalité.
Ouais.
Mais si on veut faire du ciel profond, si on veut une belle Voie lactée qui ressort bien, évidemment qu'il y a un post-traitement assez poussé à faire. Mais là aussi, il y a plein de logiciels qui permettent de faire ça facilement. Il y a énormément de tutoriels. Et évidemment, il y a une communauté française. Et même si vous parlez anglais, il y a des Américains, des Anglais. Et je pense dans le monde entier, il y a des gens qui font ça et qui partagent leurs connaissances sur Internet. Et donc c'est vraiment simple en fait de s'y intéresser, d'apprendre par soi-même au travers de la transmission des autres.
Complètement. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller voir, alors déjà d'écouter un podcast qui est vraiment super, qui s'appelle, c'est le podcast de Ciel et Espace, qui est publié tous les mois et qui parle de ce qu'il y a à voir dans le mois qui vient, tu vois, dans le mois qui, là on est donc début juillet, il vient de sortir, et donc il parle, il y a Jean-Luc d'Auvergne et puis deux autres personnes qui sont de Ciel et Espace, hein, de l'équipe du magazine, et donc il parle de ce qu'il faut, de ce qu'il y a à voir, des choses à voir le mois qui vient, et c'est très intéressant. Ah oui, par rapport à la photographie de Voie lactée, est-ce qu'il y a une astuce, Corentin, pour... comment dire, pour mettre un peu en perspective, tu sais, quand on fait une photographie de paysage, il y a un truc qu'on a appris très tôt, très vite, c'est bien de mettre un premier plan par exemple, tu vois, pour donner un peu de perspective. Est-ce que quand on fait une photographie de Voie lactée, on prend que la Voie lactée, ou est-ce qu'il y a des petites astuces comme ça pour donner un peu de relief à l'image? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de matière, quoi?
C'est vrai que c'est une grande question. Qu'est-ce que raconte ton image en fait? Est-ce que tu veux juste une Voie lactée?
Ouais.
Est-ce que tu veux une Voie lactée avec un paysage, avec une tour, avec un moulin, avec toi, tout simplement? Il y a énormément de possibilités, c'est-à-dire soit tu shootes au 50 mm, tu vas faire un montage, c'est-à-dire que tu vas prendre ton paysage en photo quand il fait encore un peu jour, tu vas attendre qu'il fasse nuit, tu vas reprendre la photo avec la Voie lactée, et tu vas faire un montage des deux, pour avoir beaucoup d'informations sur ton paysage de jour, mais ouais, beaucoup d'informations sur ta Voie lactée. Ça, c'est le genre de montage qui existe sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, parce qu'ils trouvent que c'est des montages et que ça
c'est
pas vrai. Il y a toujours ce côté scientifique chez les astrophotographes qui aiment en fait retranscrire quelque chose de vrai, plutôt que une belle image qui soit likeable sur Instagram. Mais t'as beaucoup de possibilités. Tu peux faire des panoramas. Tu peux faire l'arche de la Voie lactée, par exemple. Parce que tu sais qu'en ce moment, la Voie lactée, elle passe au-dessus de nos têtes, elle passe au zénith. Donc, je crois que c'est nord-sud, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ou dans le coin-là. Donc, tu peux faire un panorama, en fait, de la Voie lactée qui passe au-dessus d'une tour, je reprends l'exemple du moulin parce que j'ai vu une photo d'un moulin l'autre jour et que c'était classe. Il y a plein de... Après, c'est toujours très subjectif, tu sais.
Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message? Effectivement, on revient à quelque chose de très commun à tous les domaines de la photographie, c'est l'intention photographique. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas faire une photographie de Voie lactée pour en faire une. Or si, on peut pour s'y essayer, pour tâtonner, pour voir son matériel, comment ça se passe, si on aime ça, alors on peut juste faire ça. Mais une fois qu'on a un peu pris le virus et qu'on a envie d'aller plus loin, il faut quand même toujours se poser cette fameuse question: qu'est-ce que je montrerai, quoi, à la personne à qui je montrerai ma photo demain quand je l'aurai développée? Qu'est-ce que je veux qu'elle ressente comme émotion? Qu'est-ce que je veux qu'elle se raconte comme histoire? Et ça, c'est de toute façon, peu importe le type de photographie qu'on fait, il faut toujours se poser cette question-là. C'est pourquoi j'ai appuyé sur le déclencheur? Quel est le but finalement? Qu'est-ce que je veux faire passer comme message? C'est quelque chose qui est hyper, hyper, hyper important. Pour l'inspiration, peut-être, ou le plaisir des yeux surtout, est-ce qu'il y a des photographes, toi, qui t'inspirent, Corentin? Alors, il y a déjà toi à ton compte. On peut vraiment aller voir tes photos, donc Nébuleuse et Cacao sur Instagram. Mais il y a d'autres choses qui sont faites ailleurs, bien sûr, avec un autre point de vue, une autre sensibilité. Est-ce que tu as un ou deux photographes que tu aimes bien, que tu pourrais donner comme ça, si tu veux bien, pour que nos éditeurs puissent aussi voir l'état de l'art et ce qui se fait actuellement?
Alors, tu veux des photographes en astrophotographie, ou... Parce que en astrophotographie, c'est beaucoup de... C'est très technique, donc c'est pas les photos que j'apprécie particulièrement, au-delà de l'aspect technique.
Ouais.
Mais pour citer un photographe, j'en citerai qu'un, qui s'appelle Johan Terrazza.
D'accord.
Qui c'est le même nom sur Instagram, qui, je trouve, a une notion du paysage qui est bouleversante, parce que toutes ces photos de paysage sont incroyables. Et il apporte aussi beaucoup de poésie de par ses légendes et puis de toute son œuvre, en gros. Je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et je dirais un autre nom que tu connais peut-être, qui s'appelle Jean-Michel Bertrand. Est-ce que tu connais ce monsieur?
Ça me dit rien. Mais non, ça me dit rien.
Alors, si t'as rien à faire ce soir, tu vas pouvoir regarder un film qui s'appelle La Vallée des Loups, qui a été réalisé par ce monsieur, qui est un monsieur qui un jour s'est dit... Il a passé 5 ans à faire un premier film sur les aigles, à photographier les aigles, puis il s'est mis en tête de trouver des loups dans le massif des Écrins, il me semble. Il dit pas le nom de la vallée, tu vois. Et il passe 3 ans à faire un film sur sa quête des loups. Et c'est une inspiration. Je pense que si je pouvais regarder ce film tous les jours, je le ferais. Parce qu'en termes de documentaire animalier, on est sur quelque chose de sensible, on est sur quelque chose de sincère aussi. C'est engagé, mais pas trop. C'est engagé, mais pas à la manière d'un bobo qui va dire que le monde va mal, tu vois. C'est engagé du point de vue du photographe qui veut photographier des loups et observer des loups sans interférer dans la nature. Et si voilà, les gens qui nous écoutent veulent rêver un peu, voilà, c'est le film à regarder. Surtout que je sais que c'est que tes auditeurs sont souvent des gens qui sont sensibles à la nature et au sauvage. Et ce film est doté d'une... Enfin, il y a des émotions incroyables là-dedans. Et le personnage de Jean-Michel, il est... Je pourrais en parler des heures, mais... Je rêve d'arriver à la cheville de ce mec, en fait. Il est... Non, vraiment. En termes d'humilité, de performance, et de... Il y a tout. Humainement, ça a l'air d'être un gars formidable. Bref, on va arrêter de lui jeter des fleurs.
Écoute, Corentin, ça fait 1h30 qu'on est ensemble, un peu moins peut-être. Il me semble qu'on a battu le record, et je pense que les records, ce n'est pas des choses vers lesquelles tu tires, donc ça ne va pas te parler. Mais on a fait quand même un podcast qui est long.
C'est pas mal.
C'est pas grave du tout. Au contraire, c'est super. Ça prend le temps, tu vois, de poser les choses, de parler tranquillement, de parler pas que de photos. Donc c'est très bien de prendre de la hauteur. Et je pense que là, pour le coup, c'est au sens propre, comme au sens figuré. Donc ça fait du bien tout ça. Corentin, on a suffisamment parlé, mais pour te suivre, donc c'est simple, c'est ta chaîne YouTube. Alors oui, effectivement, tu publies pas tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois. Mais ce qui va arriver, ça va être du lourd. En fait, je pense qu'on peut le dire comme ça. Moi, j'ai vraiment très hâte de voir ce que tu vas nous proposer. Voilà. Donc allez voir sur la chaîne de Corentin qui s'appelle donc Nébuleuse à Cacao et ton compte Instagram. Est-ce que tu as un site internet en fait, Corentin ?
J'ai un site internet, oui. Alors je suis pas aussi productif que toi. C'est pour ça que ça me fait plaisir de te rencontrer aussi. Enfin, de rencontrer ta voix. Voilà.
Ouais.
Tu as quand même une tendance à publier très régulièrement des trucs de qualité. Et je trouve ça formidable de trouver le temps. Alors j'ai un site internet qui s'appelle nébuleusecacao.fr, tout simplement.
D'accord.
Je pense que c'est une bonne. C'est un bon endroit pour oser débuter en fait. Il y a quelques pages qui expliquent en fait pourquoi photographier les étoiles, apprendre à regarder à l'œil nu, enfin. Il y a plein de petits trucs comme ça, de petits conseils, comment apprendre à photographier un alignement de la lune avec une cathédrale ou le soleil avec la statue de la liberté, voilà. C'est des trucs que j'ai fait et qui sont faciles à faire et à prévoir et qui pour le coup sont accessibles à toute personne qui a un appareil photo. Donc ouais, ça s'appelle nébuleusecacao.fr.
Ça va compléter tout ce que je viens de dire. Top. Corentin, je te remercie beaucoup pour cette heure et demie passée ensemble. J'espère que ça aura plu à nos auditeurs. Et puis, à très bientôt sur Instagram et puis ailleurs. Et merci encore pour ta disponibilité.
Merci à toi, puis à très vite, j'espère.